passé des 8 heures presque 4, hein, de 7 heures. Oui. Oui. Avec le temps.
Alors, on va
procéder. Il y a une place à côté de Chor, là.
Alors, moi, je vous ai distribué des feuilles. C'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Hein. C'est toujours l'histoire des lits. Donc, on a le plan de l'étude. Hein. Et je ne sais pas si vous avez gardé les feuilles de mardi dernier. Les questions de gens qui avaient été donnés. Ouais, bon, ben, on prendra aussi quelques questions aussi de que Jean avait fait la dernière fois. Ouais, c'est la suite. On avait lu le chapitre 19, hein, on avait lu en entier. On va peut-être le relire, mais on va pas peut-être relire le début. Hein. On va reprendre au verset 9. Alors, vous vous rappelez ce qui avait été dit la dernière fois sur Élie. On avait eu l'histoire d'Achab, de Jézabel, d'Élie et d'Élisée, hein, ces personnages. Et il y avait eu plusieurs questions, comment le Seigneur avait nourri aussi Élie hein, quand il fuyait, et l'ange était venu justement pour lui dire de se rendre à la montagne d'Horeb. Et on va peut-être relire à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Alors comme l'a dit Hélène, on va commencer peut-être à droite cette fois-ci, de lire assez fort. Hein. Si Jacqueline, tu veux commencer?
Tu veux pas?
Ou Hélène,
vas-y.
Pardon.
Oui, Hélène, vas-y.
À partir du verset 19
9, pardon.
Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'armée, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie.
L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent.
Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?»
Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. »
L'Éternel lui dit : « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baissé. »
Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui l'ordonnait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit : « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. »
Après s'être éloigné, Élie, il revint prendre le père de bœuf qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire la chair et la donna à manger au peuple, puis se leva, suivit Élie et fut pour son service.
Voilà, merci. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'après avoir repris des forces, Élie, il rentre dans la caverne d'Horeb et il passe la nuit, au verset 9. Hein, et la parole de Dieu s'adresse à lui avec cette question : « Que fais-tu ici, Élie ?» Et nous étions arrêtés avec les questions de Jean sur la question 6. Pourquoi Dieu pose-t-il cette question à Élie ? Alors c'est vrai que cette question peut nous étonner, parce que c'est Dieu lui-même qui a appelé Élie dans ce lieu. Mais il ne faut pas oublier que ce voyage entrepris par Élie avait commencé par une fuite. C'était Élie qui s'était enfui, qui a eu peur. C'était une fuite et il a eu peur pour sa vie. Mais la direction de Dieu fait, par l'ange, d'aller jusqu'à la montagne d'Horeb, hein, au verset 7, on l'avait lu, fait que Dieu donne encore à son serviteur la direction. Et peut-être que là, on peut avoir une petite pensée, c'est que parfois, le Seigneur est droit aussi à nous de nous demander : « Mais que fais-tu ici ? » Quelqu'un a dit : « Même que lorsque nous manquons le chemin, eh bien, Dieu vient avec nous si cela aboutit à la gloire de Dieu. » Alors, attention où l'on se place. La vie chrétienne est toujours une alternance de victoires, de brisements, de nouvelles directions. C'est ainsi que le Seigneur nous fait progresser. Après le brisement, Élie comprend qu'il doit retourner. Et cela nous fait rappeler que combien nous avons besoin aussi, nous, de revenir à la repentance chaque jour. Il a compris, il s'est dit : « Bon, allez, là, il faut que je retourne. » Et moi, je m'aperçois que combien de fois j'ai besoin aussi de dire : « Hop, arrête-toi là et reviens sur tes pas. » Alors, le verset 10. Après que Dieu lui ait posé cette question : « Que fais-tu ici ? » Eh bien, la réponse d'Élie est la suivante. Élie, on voit, hein, au verset 10, bon, il expose en quelques mots sa fidélité à Dieu, son zèle. Et là aussi, ça peut nous faire penser à Abias qu'on avait vu la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Abias il s'était rencontré avec Élie, lui aussi, Abias avait dit tout ce qu'il avait fait, hein, qu'il avait protégé, gardé les 100 prophètes, il les avait nourris et tout ça. Donc il explique aussi sa fidélité envers le Seigneur. On peut faire ce rapprochement d'Élie avec Abias. Et une pensée là aussi m'est venue, hein. Parfois nous pouvons nous aussi exposer ce que nous faisons pour Dieu, le zèle que nous avons, hein. Mais on peut très bien exposer le zèle que nous avons, mais il ne faut pas que nous soyons orgueilleux, hein, du genre : « Tu vois, moi, ce que j'ai fait, hein, j'ai fait ça pour le Seigneur et tout ça. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de l'orgueil. Parce que c'est par grâce que le Seigneur veut se servir de chacun de nous. Et c'est toujours dans l'humilité que nous devons servir le Seigneur. Et d'ailleurs, la Bible le dit, que tout ce que nous pouvons faire, que ce soit pour la gloire du Seigneur. Donc, il n'y a aucune gloire quand nous faisons quelque chose pour le Seigneur, parce que n'oublions pas que nous sommes au service du Seigneur. Ça, c'était une petite pensée que j'avais eue. Alors, Élie, ici, donc, il expose ce qu'il fait. « J'ai déployé mon zèle, hein, les enfants d'Israël t'ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels, et moi, je suis resté seul. Ils veulent me tuer. » Et Élie, c'est vrai que là, il est sincère. Je pense que ce qu'il vit, il doit être même attristé de voir le résultat de ce qu'il y a. Hein. Il se croyait tout seul sur cette terre à tenir tête à Jézabel et à ce système qu'il y avait là à cette époque avec le roi Achab. Mais Dieu va vite le remettre à sa place, car plus loin, il nous est dit que Dieu avait placé déjà 7000 hommes. Hein, qui n'ont pas fléchi le genou. Ça, on va le voir au verset 18. Hein. Donc, c'est un encouragement que Dieu lui donne là. Il n'est pas tout seul. Hein. Et de quoi, bien sûr, là, inspirer Élie d'humilité, se croyant qu'il était tout seul, mais Dieu le remet à sa place. Et là aussi, nous pouvons avoir un grand ministère dans le plan de Dieu. Mais n'oublions jamais que nous ne sommes jamais seuls à servir le Seigneur et être meilleurs que les autres. Même si nous sommes bien dans notre église locale, il existe bien sûr d'autres frères et des sœurs qui forment le corps de Jésus. Et Jésus, c'est lui qui en est la tête. Donc, nous ne sommes pas tout seuls. Dieu a en réserve d'autres personnes qui après nous, mais qui continueront le travail comme un peu pour Élie. Alors, c'est vrai, ne regardons pas les frères extérieurs comme étant des faux frères, et croyant qu'il n'y a que nous qui portons la bannière du Seigneur. Hein? C'est vrai que nous sommes bien dans notre Église, mais il y a d'autres frères, et nous ne devons pas non plus les regarder différemment, si bien entendu, ils se conforment à la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous fait de se dire être frère et sœur quand le frère et les sœurs est conforme à ce que nous dit la parole de Dieu, quand on s'y tient à ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, parce que si, je pense que si on croit qu'on est les meilleurs et qu'on est tout seul, c'est là qu'on risque d'avoir de l'orgueil. Moi, je fais ceci et j'ai fait cela. Non, soyons humbles. Et Il y a un passage que je répète souvent, excusez-moi, peut-être que je l'ai déjà répété, mais j'aime beaucoup le passage qui est dit, « Ce que je demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors, soyons vraiment humbles, ne nous sentons pas supérieurs aux autres, restons dans l'humilité. Alors, verset 11 à 18, hein, on va voir la gloire de Dieu. Et bon, on l'a lu, on ne va pas le relire. Il nous est dit que « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et la montagne d'Horeb est souvent présentée comme un lieu où il y a la rencontre avec Dieu. Horeb, c'est la montagne de Sinaï. C'est là aussi où Moïse a reçu les tables de la loi. Et la montagne de Dieu va... à la montagne de Dieu, pardon... Dieu va se manifester un peu comme au temps de Moïse. On peut peut-être lire dans Exode au chapitre 33, versets 18 à 22. Exode, alors peut-être que, je ne sais pas où on s'est arrêté à lire. Si...
Comment ?
Exode chapitre 33, versets 18 à 22. On va voir comment Dieu s'est manifesté aussi à Moïse. Exode 33, verset 18 à 22.
Moïse dit : Fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit :
je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. »
Voilà. Que se passe-t-il là, à ce moment-là? Il nous est dit que la gloire, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Hein? On voit que là, la gloire de Dieu, elle se manifeste. Et avec Élie, c'est pareil. Hein? Élie doit sortir et se tenir devant Dieu. Au verset 11, on voit l'importance, et on en avait déjà parlé, l'importance de se tenir devant Dieu. Et Élie, à chaque fois qu'il s'est tenu devant Dieu, eh bien, ça a été vraiment, il a prophétisé avec, il a eu les victoires. Et je pense que nous aussi, quand nous nous tenons devant Dieu, eh bien, le Seigneur nous donne des victoires. C'est important de se tenir devant Dieu. Et il est dit que Dieu passa. Mais avant qu'il passe, il est dit qu'il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et les rochers. Alors, je ne sais pas si vous avez été déjà pris par un ouragan ou des tempêtes très fortes. Moi, jamais ça m'est arrivé, mais j'ai vu à la télévision les ouragans et tout. Et croyez-moi, quand on voit les maisons, tout ce qui est détruit, il vaut mieux pas être là. Et là, on voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui vient, qui est comme ce vent qui déchire les rochers. Et toujours dans le verset 11, il nous est dit que Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Et au verset 12, il y a un feu, et l'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Prenons dans Exode, au chapitre 33, mais on l'a lu, pardon. On l'a lu. Oui, la gloire de Dieu passe, et sa grandeur, sa puissance. Prenons maintenant Exode, chapitre 19, au verset 16 et à 19. Exode 19.
C'est pas Exode, c'est Chronique.
Exode 19, verset
c'est
16.
C'est Chronique, non?
Pardon? Qu'est-ce que j'ai marqué?
C'est toujours Exode?
Oui.
Ouais.
Le troisième jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Ouais.
On voit que Dieu, là, se manifeste à travers le tonnerre et à travers les éclairs. Et prenons encore Habacuc. Habacuc, chapitre 3. Et verset 3 à 6.
Dieu vient de Téman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux. Sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste. Et la peste est sur ses traces. Il s'arrête. Et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde. Et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui.
C'est incroyable de voir la puissance de Dieu. Dieu se manifeste, Dieu arrive, il réside avec force et personne ne peut se tenir devant lui avec sa propre justice. Dieu est tout puissant et quand il fait, on peut-être transporter comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout puissant et il peut faire de grandes choses. Et là, on voit que Dieu aussi, dans ce vent, eh bien, on voit la gloire de Dieu, le tout puissant. Et dans ce texte, nous voyons que là, dans le vent, les tremblements de terre et le feu, l'Éternel Dieu n'y est pas, contrairement à Moïse. Le jour où le Seigneur, le roi des rois, reviendra, et quand on pense à tous ces phénomènes, le vent, le feu, hein, quand Dieu reviendra, ces phénomènes se manifesteront où la gloire de Dieu arrivera. Et ce jour sera terrible. Il suffit de lire dans l'Apocalypse, hein, quand l'Éternel reviendra, ça sera, je crois qu'il est même dit que les hommes crieront de mourir au rocher, de les écraser. Ça sera terrible, mais c'est la gloire de Dieu. Alors, Élie devait comprendre la toute-puissance de Dieu. Et je crois que nous aussi, nous devons comprendre que Dieu est tout-puissant et que nous pouvons vraiment nous appuyer sur lui, lui faire pleinement confiance en toutes choses. Il est souverain en toutes choses et nous devons reconnaître que nous avons ce Dieu qui commande le vent, qui commande la tempête, tous les tremblements de terre. Et Élie, là, devait se tenir. Et Élie, là, se sent impuissant face à la gloire de Dieu. Il se rend compte sa faiblesse. Il est là devant ces phénomènes qui se passent. Bon, c'est pas marqué dans la Bible, mais il devait être tout tremblant, tout reconnaître qu'il est vraiment... il s'humilie. Qu'est-ce qu'il est face à ce Dieu merveilleux, comment il se manifeste? Eh bien, moi, ça m'a parlé, je me disais, ben oui, comment je vois Dieu? Est-ce que je le vois dans toute sa puissance? Est-ce que je lui fais confiance dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, ce Dieu qui est capable de briser les rochers? C'est extraordinaire. Et peut-être que là, il comprend sa faiblesse, et ça m'a fait penser au psaume 130, verset 3, où il est dit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister ?» Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Et là, Élie retient une leçon. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on lit la suite... Après ce moment de puissance et de la gloire de la part de Dieu, ce qui est frappant et merveilleux, c'est qu'il y a, après ces événements terribles, des rochers qui se brisent, etc., le vent violent, le feu de Dieu. Que se passe-t-il au verset 12? On peut le lire. Hein. Que se passe-t-il au verset 12? Dans un roi. Hein.
Il y a un murmure doux et léger.
Il y a un murmure doux et léger. C'est extraordinaire. Dieu se manifeste dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Et là, il nous est dit qu'il y a un murmure doux et léger. La voix de Dieu. La voix de l'amour. La voix de la grâce. C'est vrai que quand on prend les Écritures, la parole de Dieu, on s'aperçoit que sa parole est pleine d'amour. Et Dieu nous l'a donné pour nous. Cette voix douce et légère. Ça me touche. Hein, sachant être à l'écoute de la parole de Dieu. Il n'est pas là pour nous condamner. Il est là pour nous instruire. Hein, et à nous d'écouter cette voix douce et légère qui vient de la part de Dieu. Élie comprend que Dieu... Il est là. Et au verset 13, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se cache. Il se cache avec son manteau. Et il se tient à l'entrée de la caverne. Élie savait très bien qu'il ne pouvait pas voir Dieu. Parce qu'il nous est dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et c'est pour ça qu'il se cache. Oh, combien il est bon de s'approcher de Dieu et de se tenir devant lui. Et là, Dieu lui repose la question. Encore une fois, il lui dit, « Que fais-tu ici ?» Alors, est-ce que Dieu, là, lui refait encore un reproche? Pourquoi Dieu lui repose cette question une deuxième fois? Que fais-tu ici? Est-ce qu'il lui fait un reproche? Non. Il ne lui fait pas de reproche. Dieu ne fait pas de reproche. Ah, parfois, oui, il peut faire des reproches. Quand on n'obéit pas, quand on est contraire à sa volonté, Dieu nous le montre. Mais là, il ne lui fait pas de reproche. Le but de cette répétition de Dieu qui lui dit que fais-tu ici, c'est de faire comprendre à Élie qu'il veut le renvoyer à sa tâche. Il veut. Que fais-tu ici? Et n'oublions pas que cette voix, hein, elle est douce et légère. Alors, que fais-tu ici? C'est justement pour qu'Élie comprenne, hein, qu'il doit repartir. Il doit repartir à la tâche qui lui avait été confiée. Et il doit comprendre aussi, vu la gloire de Dieu, qu'il ne doit plus avoir peur. N'oublions pas qu'il est parti parce qu'il avait peur pour sa vie. Dieu était là. Dieu, il est avec lui. Et je pense que c'est une leçon pour nous aussi. Hein, que parfois, nous avons des craintes, on a peur peut-être même de témoigner, peut-être de s'engager dans certaines choses. Mais n'oublions pas que Dieu est tout puissant et qu'il veut, lui, nous accompagner. Et c'est un encouragement pour nous, dans notre vie quotidienne, où on peut rencontrer des moments, enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, mais de dire, oula, bon, là, je ne veux pas rentrer sur ce terrain, là, qu'est-ce qu'on va dire de moi ou quoi. Non, soyons, je crois, humbles, reconnaissons que Dieu est tout-puissant et qu'il nous dit aussi, hein, que fais-tu ici? Reprends ton chemin, le chemin que je t'ai donné au départ. Et c'est pour nous aussi un encouragement. Je crois que les exemples qui sont donnés dans la Bible, c'est justement pour notre instruction. Si cela est arrivé, c'est qu'on a une leçon à retenir, et pour notre vie de tous les jours. Donc,
on a l'impression que, au travers de cette démonstration de force et du murmure de l'Égypte, le Seigneur, il a... Jusqu'à présent, en fait, tout ce qu'a fait Élie, ça a été avec la force, en fait. Il a reçu de l'Éternel. Quand il a pu intervenir sur la pluie, quand il a pu intervenir avec des sacrifices, avec le feu qui est descendu, et tout s'est fait par force et avec autorité. Et là, le Seigneur, on a l'impression qu'il veut lui montrer qu'il y a autre chose, quoi. Un petit peu comme quand Jésus est arrivé et que tout le monde pensait qu'il allait prendre le pouvoir par la force. En fait, lui, ce n'était pas son objectif. Et là, on a l'impression que le Seigneur, il veut lui apprendre ça aussi, qu'il s'est peut-être trop confié dans la force qu'il a reçue, qui était exceptionnelle et qui était nécessaire. Et là, il veut peut-être lui montrer une leçon d'humilité et de douceur.
Tout à fait. Parce que les victoires qu'il a eues, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter aux victoires. On peut nous-mêmes avoir des victoires, avoir eu des victoires par la grâce du Seigneur, et de se dire, bon, mais ça y est. Non, non, on a toujours besoin de revenir au pied du Seigneur, hein, et parce qu'il a toujours une tâche à nous confier. Et on ne doit pas s'arrêter sur nos victoires. On doit continuer toujours à persévérer. Et c'est bien ce que tu relèves. Donc, c'est vrai, donc là on voit, il le renvoie à sa tâche, et il doit se dépouiller justement de ses peurs, de ses craintes, hein, qu'il examine son cœur. Pourquoi il est ici? Et parfois, nous avons besoin, nous aussi, de nous examiner. Où je suis, hein, de la Bible le dit, examinez-vous vous-même. Hein, et David, il disait, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de la vérité, sur ton chemin. Et je crois que parfois, nous aussi, on a besoin de faire la même prière que David a faite. Hein. Regarde si je suis vraiment selon ta volonté. Peut-être que je dois aussi, moi-même, reprendre le chemin que j'ai peut-être abandonné. Et je crois que, peut-être aussi, il veut lui montrer par là que, je crois que j'ai lu un passage dans la Bible, mais je ne me l'ai pas retenu, où il est dit, mais arrêtez de contourner la montagne. Parce que c'est, souvent, on peut contourner la montagne de Dieu, ou on peut être autour de Dieu, Et je crois qu'il est important aussi de monter sur cette montagne, de faire pleinement confiance dans le Seigneur. Et Dieu lui dit, mais arrêtez de contourner la montagne. D'un air de dire, mais allez, venez à moi.
Et Georges, excuse-moi, t'as posé la question tout au début, comment je vois Dieu? Et j'ai l'impression quand il pose la question là, que fais-tu ici, Lee? En fait, c'est de considérer finalement, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu sais, la dame, la méchante reine, elle avait parlé fort en menaçant.
Isabelle, oui.
Et là, t'as la voix douce de Dieu, qui vient après des témoignages de puissance. Oui. Et en fait, moi je vois pour ma vie, ou pour les personnes que je rencontre, t'as des personnes de foi formidables qui ont vécu des choses très difficiles, et à un bout d'un moment, c'est tellement difficile qu'elles voient Dieu comme faussé, ou soit sévère, soit loin, soit désintéressé, soit pas assez puissant, soit qu'il n'y a pas envie de les aider. Ouais, et ça, en fait, c'est tout ça notre combat de vie, quoi. De monter sur le rocher, c'est ben, Dieu dit ça, qu'il est comme ça, alors je choisis de le croire. Ouais. À ce moment-là, il peut réintervenir, quoi. Ouais.
C'est juste ce que tu dis. Comment il voit Dieu? Et comment nous voyons Dieu? Est-ce que vraiment on voit ce Dieu? Bon, on sait qu'il est grand, mais là, Élie, il voit la puissance de Dieu. Hein? Et en fin de compte, il veut lui faire comprendre, mais ouais, appuie-toi sur moi. Tu vois, je suis le Tout-Puissant. C'est un encouragement pour nous, c'est vrai, parce que hein, comment nous aussi, nous voyons Dieu, quoi? Comment on le vit? Oui, alors n'hésitez pas à aller de...
Parce que la puissance et le feu, le tremblement de terre ne peut pas changer le cœur de l'homme. Il n'y a que le murmure doux et léger, parce que dans l'évangile de Jean, hein, chapitre 1, il est dit, la loi a été donnée par Moïse. La loi, c'est ça, le Sinaï, le tremblement de terre, les folles. Ça, c'est la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et donc là, le vent doux et le murmure doux et léger, c'est vraiment le symbole de la grâce. Et c'est uniquement cette grâce qui est capable de changer le cœur humain. Pas le vent, pas la tempête, pas le tremblement de terre, pas le feu. Mais uniquement le vent doux, murmure.
La voix de l'amour et la voix de la grâce. Tout à fait. Merci.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est de la façon dont le Seigneur se prend avec lui, comment il s'y prend. Et on voit que les choses se font en un certain temps et d'une certaine façon. Et quand on voit au début, ben, après comme tu avais partagé, voilà le miracle qui s'était fait sur, par rapport au prophète de Baal, etc. De voir après que Élie, ben voilà, il a peur suite à la déclaration de Jézabel. Il part dans le désert et il demande la mort. Et c'est rigolo de voir que le Seigneur à ce moment-là, ben le murmure il vient pas là quoi. Il aurait pu venir là. Il demande la mort, ben alors oui, ben c'est maintenant que ça doit venir. Mais il y a un cheminement qui se fait qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire et qui fait que le Seigneur ben, parle à son serviteur et montre qu'il est toujours présent. Et c'est un encouragement énorme parce que, comme certains le disaient, comme Sylvia le partageait, il y a des personnes qui se voient complètement en bas, et même des serviteurs du Seigneur, parce que Élie en était un grand. Et il n'y a aucun cas qui est désespéré pour le Seigneur. Mais il y a toujours un chemin qui se fait en un certain temps, et même Élie, ben je pense qu'il ne devait même pas saisir de la façon dont le Seigneur s'y prenait. Quoi. Oui. C'est tellement fait d'une façon si belle, et avec tellement de patience, avec tellement de grâce, et on ne peut désespérer.
Et ça, c'est vrai ce que tu dis, c'est un encouragement pour nous, pour nos bien-aimés qui sont pas encore au Seigneur dans beaucoup de domaines. C'est voilà, c'est il y a un cheminement. Il y a, je pense que notre calendrier, c'est pas le calendrier de Dieu. Donc on doit être patient. Le Seigneur est patient. Et à travers ça, bien, on doit apprendre aussi ce cheminement, cette patience avec le Seigneur. Il sait quand le bon moment, c'est lui qui sait et il parle au bon moment. Et c'est vrai que ça nous apprend là encore l'humilité et l'amour du Seigneur. Et voilà, son temps, c'est le sien, c'est pas le nôtre. Si nous, des fois, on désespère parce qu'on voudrait voir les choses plus rapidement, eh bien non, c'est le temps du Seigneur. Faisons-lui confiance et...
Et souvent c'est pédagogique aussi parce que le Seigneur travaille notre cœur et il nous faut souvent beaucoup de temps. Et on voit cet exemple dans beaucoup d'autres passages avec Pierre, quand Jésus demande « Pierre, m'aimes-tu ? » Il ne va pas lui demander une fois, mais trois fois, pour que Pierre s'interroge aussi. Ouais. Ou alors Joseph avec ses frères qui va, il va avoir tout un cheminement avant de se révéler à eux. Et on pourrait dire « mais c'est presque, il est presque sadique ». Non, non, il veut vraiment amener ses frères à un point où ils vont... vraiment s'interroger, se remettre en question et comprendre aussi que ce qu'ils ont fait n'était pas selon la voie de Dieu, mais il leur a fallu tout ce cheminement-là, c'est ce qui se fait aussi pour Élie. Et souvent, nous aussi, on est dans ce même cas. Et Dieu nous parle à plusieurs reprises parce que on est dans la comprendre. Et Dieu sait qu'il faut nous amener à un certain point pour qu'il puisse vraiment se révéler à nous. Donc c'est aussi peut-être pédagogique.
Oui, c'est vrai, ça va aussi.
C'est rigolo ce que tu as mis entre parenthèses pour la question « Que fais-tu ici ?» Tu as mis « Dieu sonde les cœurs ». Et ce qui est extraordinaire avec Élie, et je pense que c'est pareil pour nous tous, c'est que quand Dieu pose une question, c'est aussi pour nous-mêmes, mais pour qu'on exprime ce qu'il y a dedans. Et il ne nous dit pas, et c'est là où c'est vachement bon, enfin je trouve, de pouvoir exprimer les choses au Seigneur, mais quand ça sort de notre bouche, on sort ce qu'il y a dans notre cœur. Et Élie livre à deux reprises ce qu'il y avait dans son cœur.
Absolument.
Et c'est extraordinaire. S'il n'y a pas d'expression de notre cœur, c'est difficile, je pense, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec Élie, c'est que Élie, il a exprimé ce qu'il avait dans son cœur, et Dieu a pu... continuer le chemin.
On voit l'honnêteté de
Élie. Ça fait très bien ce qu'il avait dans le cœur. Il n'avait même pas besoin de lui poser la question. La question est pour Élie. C'est vrai que Élie avait besoin d'exprimer, de ne pas avoir honte ni peur, ni de déverser tout. Hein.
Et c'est ce que je m'étais marqué d'ailleurs, pour répondre à ça. C'est vrai que bon, on doit s'examiner et écouter cette voix du Seigneur, cette voix qui est douce et légère, et sortir de notre caverne et se tenir devant Dieu. Et que fais-tu ici, Élie ? Le Seigneur le sait bien. Et Élie va répondre au Seigneur et lui apporte tout son désarroi. Au verset 14, nous pouvons, nous aussi, exprimer nos malaises. Nous pouvons exprimer aussi, avoir nos questions, même nos doutes. Je crois que, voilà, on peut exprimer toutes choses au Seigneur. La vie chrétienne est toujours une alternance de victoire et aussi de brisement. On le voit souvent, même David a exprimé des fois son désarroi. Je crois que c'est dans le psaume 13 ou 8. Mais jusqu'à quand, Seigneur, tu vas me laisser dans cette situation ? Il exprime aussi son désarroi. Mais ce n'est pas un désarroi comme on peut des fois rencontrer des personnes, on n'est pas d'accord. Non, non, là, il raconte ce qui lui arrive, mais avec respect. Au verset 15 à 17, l'Éternel répond à Élie, « Va, reprends ton chemin. » Reprends, en fin de compte, la mission que je t'ai confiée. Et ici, il y a peut-être aussi un enseignement pour nous. Nous avons eu avec le Seigneur, c'est vrai, des victoires, mais il se peut que nous avons aussi des déceptions dans notre vie. La crainte, les doutes, notre petit train-train de la vie, nos habitudes, fait que nous pouvons aussi oublier la mission que Dieu nous a confié. Peut-être que, je me dis que ce soir, hein, Dieu nous dit, ben va, reprends ton chemin. Tu vois où tu es, que fais-tu ici, que penses-tu? Le Seigneur veut peut-être ce soir nous dire, eh bien, reprends le chemin que tu avais commencé. Un peu comme il a dit à l'église d'Éphèse, hein, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Hein? Peut-être nous, au départ, nous avons eu vachement d'élan pour servir le Seigneur. Oh oui, oui. Et puis, petit à petit, les doutes, tout ça, fait que, voilà, on a abandonné. Eh bien, nous avons besoin, comme Élie, comme il le dit, ben va, retourne à la tâche que je t'ai confiée, reprends ton chemin. Et là, il lui dit que Élie devait aller à Damas pour oindre trois personnes, Azaël, Jéhu et Élisée. Donc, on sait que Azaël et Jéhu, bon, sont devenus rois, hein, et il y a Élisée qui est prophète. Au verset, j'ai envie peut-être de reprendre la question 8 de Jean. Hein, quelle est la nouvelle mission d'Élie? Bon, je me suis peut-être un peu trop avancé. Donc, cette nouvelle mission d'Élie, c'est qu'il aille, bien sûr, hein, qu'il retourne à Damas pour pouvoir rejoindre ces trois personnes. Et donc, Élie doit reprendre ce chemin pour aller rejoindre ces personnes-là. Ces trois personnes sont des instruments entre les mains de Dieu. Et on fait un tel travail que Élisée n'a pas eu à rajouter l'épée, parce que quand on le lit à la fin du verset 7, pour le châtiment, ils avaient accompli leur tâche. Alors, concernant Azaël, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, veut dire Dieu a vu. Et on sait qu'il sera roi de Syrie. Vous avez l'histoire de cet homme, de ce roi-là, Azaël, dans 2 Rois au chapitre 8, dans les versets 7 à 15, on a l'histoire d'Azaël. Et ensuite, il y a aussi ce Jéhu qui va devenir roi, et son nom veut dire « c'est l'Éternel », qui deviendra aussi roi d'Israël. Et cette histoire, elle est dans 2 Rois au chapitre 9, de l'histoire de Jéhu. Et on sait que c'est Jéhu, lui, qui mettra fin à la maison d'Achab. Je me presse un peu parce qu'il est déjà moins 5. Hein. Ensuite, Élie devait oindre Élisée comme prophète à sa place. Alors c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, ces trois personnes sont des instruments dans la main de Dieu. Et on fait un tel travail que c'est vrai que Élisée n'a pas eu à finir ce travail-là. Et au verset 18, Dieu dit à Élie, « Je laisserai 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou, c'est-à-dire qui n'ont pas adoré les idoles. Hein. » C'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, Élie pensait être seul. Et je crois qu'on peut-être lire Romains au chapitre 11 et au verset 1 à 6. Romains, chapitre 11, 1 à 6, où il nous est parlé aussi de ce qui s'est passé avec Élie. Romains, chapitre 11, 1 à 6. Si tu veux le lire,
Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie quand le prophète adresse à Dieu cette plainte pour Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant moi. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus pour les œuvres, autrement la grâce n'est plus que grâce. ainsi, c'est pour pouvoir faire les œuvres, ce n'est pas une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre.
Voilà, ça répond un peu à la question de Jean, hein. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et là, on voit quand même que Dieu, malgré ce peuple qui a été rebelle, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu, malgré le châtiment, n'a pas oublié son peuple, il s'est réservé 7000 hommes. Dieu n'est pas limité à un seul homme. Qu'il soit craintif ou déprimé, comme l'a été Élie. Aujourd'hui, dans notre génération, il y a aussi un reste. Hein? Selon l'élection de la grâce, on a lu. Et à chaque génération, même Paul dit que ce choix est totalement été effectué par la grâce, seule de Dieu. Alors c'est vrai, c'est encore un encouragement de savoir que peut-être même après, là je fais une petite parenthèse, cet après-midi, on était à Montbeauvais, il y avait Jean aussi, et on a vu le témoignage de Colette, ce qu'elle avait laissé, et on s'est aperçu qu'il y avait ses petits-enfants, et tout ça, et elles ont donné leur témoignage aussi, et on sentait qu'il y avait un reste, il va y avoir cette continuité. Et je crois que Dieu aussi, même dans notre génération, après nous, il y aura une continuité par la grâce de Dieu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est un encouragement. Alors, ce nombre 7000, alors j'ai lu ça dans un commentaire, représente la sainteté de Dieu par le nombre 7. Alors, la dernière fois, on avait vu le chiffre 40. Hein, et bien, là, ce chiffre 7, et bien, ça représente la sainteté. Et on peut croire que cela avait échappé au regard d'Élie. Hein. Et parfois, il nous arrive à nous aussi qu'il y ait des choses qui nous échappent. Mais Dieu, il n'est pas dépourvu. Hein. Il a en réserve des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous sommes, nous, limités. Dieu n'est pas limité. Et alors, pour avancer, les versets 19 à 21, Élie ouin et Élisée. Alors on peut prendre peut-être la question de Jean, la neuvième question. Hein, l'enseignement divin à Horeb a apporté ses fruits, à quoi le voit-on? Par rapport à ce qu'on a lu, les versets 19 à 21, à quoi on peut voir ça?
Part, on
construit
sa mission.
Oui. Qu'est-ce qu'on lui demande? Déjà qu'il reprend le chemin. Oui. Hein, il reprend le chemin, un encouragement pour nous aussi à reprendre notre chemin, le chemin que Dieu nous a tracé. Et il y a aussi peut-être une question qu'on peut se poser. Pourquoi Élie ne va pas oindre d'abord Azaël et Jéhu comme Dieu l'a dit? Il commence par aller vers Élisée, son successeur. Et on sait que Élisée veut dire Dieu est salut. Ce qu'on peut voir, c'est que là, Élie, il agit selon l'esprit et non la lettre. Élie avait appris cette leçon de l'humilité. Alors c'est à cette question peut-être que, à quoi le voit-on, hein? Au lieu de dire « je suis seul », il a la sagesse spirituelle et l'intelligence que donne l'Esprit de Dieu, bien sûr. Il estime Élisée plus grand que lui. Cette attitude de soumission est la preuve de son relèvement. Il va aller oindre Élisée alors qu'il croyait qu'il était tout seul. Élie voit Élisée, et sans dire un mot, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il jette son manteau. C'est un acte, cet acte signifie l'appel au ministère prophétique. Et en ramassant le manteau d'Élie, Élisée reçoit de la part de Dieu l'héritage du grand prophète. Élisée, qui a vu le geste d'Élie, lui demande d'aller dire à ses parents, au revoir. Alors, Élie lui dit, oui, va, mais pense à ce que je t'ai fait. N'oublie pas l'appel de Dieu. N'oublions pas aussi que Dieu nous a appelés tous à son service. Il nous a appelés aussi à être des témoins de son amour, le témoin de sa grâce.
Mais le manteau d'Élie, c'est aussi un signe distinctif. C'est propre au fait qu'il est prophète. Donc s'il jette son manteau qu'il est monalisé, c'est une transmission de pouvoir.
Voilà, c'est une transmission, oui, tout à fait. Oui. Alors, ce qui m'a frappé, moi, là, c'est que on connaît l'histoire de l'homme qui était avec Jésus et que Jésus lui dit, ben suis-moi. Et l'homme lui dit comme ça, oui, laisse-moi d'abord enterrer les morts et tout. Élisée, lui, apparemment, on pense que, oui, laisse-moi d'abord dire au revoir à mes parents. Mais, voilà.
Justement, là, une des caractéristiques de la leçon honorable, c'est qu'Élisée est devenu, Élie est devenu patient. Parce que, en fait, il rencontre donc Élisée, il lui dit, suis-moi. Et Élisée lui dit, attends, je vais d'abord aller embrasser, parce qu'il y a eu beaucoup de temps de passé là, il a tué les bœufs, il a fait la fête. Bref. Pendant ce temps, le vrai prophète était là en train d'attendre le retour d'Élisée. Il aurait pu dire, non, non, quand Dieu appelle quelqu'un, il n'a pas à aller dire au revoir à ses parents, on vient tout de suite. Mais non, ne fais pas ça. Va et reviens.
Et rappelle-toi ce que...
Ouais. Quelle grâce. Vous voyez, Élie est devenu gracieux.
Ouais. Et c'est vrai, c'est là qu'on voit, par rapport à la question, ce changement qu'il y a. Hein? Mais la question qu'on peut se poser aussi, hein? Est-ce que moi aussi je suis patient?
Bonne question, ça.
Est-ce que moi aussi j'ai cette humilité maintenant? Une fois que Élie a vu Dieu, enfin, pas vu de ses propres yeux, mais qui a vu la gloire de Dieu, de tout ce qu'il a fait, et nous, nous avons aussi, nous avons la parole. C'est un peu comme Job a dit, mon oreille avait entendu, mais maintenant mes yeux m'ont vu. C'est pas qu'il avait vu Dieu, mais nous on pourrait dire la même chose. J'ai entendu parler de Dieu, mais par la grâce du Seigneur et par son esprit, par la parole de Dieu. Hein? Est-ce que moi aussi j'ai changé? Est-ce que je suis devenu patient? Est-ce que je suis devenu humble? C'est une question qu'on peut se poser. Élie, oui. Lui, on voit ce changement qu'il y a eu.
Dans l'engagement d'Élisée, on voit que Élisée, lui, est sûr de suivre la mission qui lui est donnée. Donc, il veut aller voir ses parents. Le Seigneur, ça me fait penser que le Seigneur, quand il nous donne nos convictions, il est prêt aussi quand même à nous entendre et à donner suite à certains de nos besoins. Si le Seigneur est si catégorique envers la personne à qui il m'a demandé ça, c'est parce que si peut-être il connaissait le cœur de la personne, c'était peut-être un prétexte aussi pour partir et ne pas revenir. Donc, il y a aussi un discernement qui peut être, s'expliquer dans cet écart.
Ouais, c'est vrai. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que Élisée démontre, en allant dire adieu à ses parents, et en sacrifiant ses bœufs et en brûlant son attelage, qu'on voit dans ces derniers versets, ben, démontre qu'il se sépare définitivement de sa vie d'avant. Et là, nous avons une leçon. Hein, pour, il se sépare définitivement de tout ce qu'il avait pour maintenant être au service de Dieu et de suivre Élie pour apprendre. Et cela peut nous faire rappeler l'attitude aussi de Josué envers Moïse, de l'attitude de Timothée envers Paul aussi. Et il est bon d'avoir un modèle aujourd'hui. Quel est notre modèle?
Jésus.
Nous n'avons plus de prophètes, les apôtres, il n'y a plus de prophètes. Mais nous avons besoin d'un modèle. Et aujourd'hui, c'est Jésus-Christ notre modèle suprême. Et nous devons être à l'écoute. Élisée a voulu suivre Élie pour apprendre. eh bien combien nous avons besoin aussi d'avoir comme modèle le Seigneur Jésus. Et ça, c'est important. Et l'importance que Élisée fait en brûlant son attelage, ça veut dire que tout ce qu'il avait, il abandonne pour suivre que le Seigneur. Combien nous avons besoin, nous-mêmes, d'abandonner certaines choses que nous traînons, que nous avons besoin de brûler pour suivre notre modèle Jésus-Christ. Savoir aussi brûler notre attelage, laisser derrière nous les choses qui sont pas toujours bonnes. L'image nous a été rappelée qu'il faut naître de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont nouvelles. Et là, c'est encore une leçon pour nous. On a besoin vraiment de vraiment abandonner ce que nous avions fait. J'espère qu'Hélène n'est pas trop mal, on entend tout ça. Et il y a un cantique qu'on chante, enfin, surtout avec dans les camps comme ça, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer et repartir à zéro. Oh, combien nous avons besoin de repartir à zéro, de brûler notre attelage et d'avoir notre Seigneur comme modèle, et repartir avec lui, et apprendre de lui. Élisée, alors je ne sais pas combien de temps Élisée est resté avec Élie, il a dû apprendre. Josué a appris avec Moïse. Timothée aussi. Et on a besoin d'apprendre du Seigneur. Il n'y a que comme ça qu'on pourra grandir. Voilà, je suis. On a commencé 5 minutes en retard, on a eu. Hein, donc il est 8h05. Voilà. Alors peut-être en quelques mots, si quelqu'un veut rajouter quelque chose qui peut nous aider, ou on va terminer par prier.
Moi, je voudrais bien vous dire le Matthieu 11, 28, où c'est l'exemple de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Voilà. Tout comme sa parole. Douce et légère, c'est auprès de Dieu qu'on peut trouver cela. Donc, ayons comme modèle notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà, on va terminer. Ça va, Hélène ?
Oui, mon père, peut-être qu'elle est là. Parce qu'elle ne peut pas respirer. Elle ne peut pas respirer normalement.
Voilà.
À cause de l'accident qu'elle a eu.
David, tu veux terminer par la prière?
Seigneur, on veut encore ensemble ce soir te rendre grâce. Te rendre grâce parce que tu nous as permis d'ouvrir ta parole. Te rendre grâce parce que tu nous as donné l'exemple de tes serviteurs, Élie et Élisée. Tu as montré ces serviteurs qui ont des doutes, qui, malgré. Les miracles qu'ils ont vus, ont peur. Mais Seigneur, tu montres aussi que tu relèves dans chacun de tes serviteurs. Tu prends du temps pour eux. Tu nous apprends aussi qu'il faut être patient, attendre ta réponse, attendre ton retour pour chaque chose, Seigneur. On veut aussi te remercier pour ce bel exemple d'Élisée qui a brûlé sa vie passée pour partir vers toi. Seigneur, quel encouragement pour nous, quel encouragement à ce qu'on laisse derrière nous tout ce qui nous éloigne de toi, qu'on laisse derrière nous tout ce qui ne nous permet pas d'avancer dans ta direction, Seigneur. Alors que c'est dur, pour chacun d'entre nous, mais on sait que le chemin nous amène vers toi, vers des choses tellement plus merveilleuses. Et nous, à chacun, à le réaliser, Seigneur, ce soir. Amen.
Amen. Amen. Voilà, la suite, ça sera Josias qui nous terminera ça
dans un mois, je pense.
Ah oui. Alors, on fera aux annonces.